Bonjour Jean-Pierre Petit.
Bonjour Nicolas Dose.
Bienvenue. Vous êtes président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président d'Odoxa. Philippe Trénard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Événement demain à Aix.
Absolument. À Aix, nous donnerons tous des éléments pour se faire une opinion indépendante, non point dirigée, sur l'avenir de la France et sur les différentes propositions d'ailleurs qui peuvent être présentes. Et avec cette idée quand même, c'est que les Français doivent travailler ensemble, comme nous devons travailler aussi avec les autres pays, et notamment avec l'Afrique, si nous voulons améliorer le bien-être.
Alors, ça tombe drôlement... C'est très particulier, parce qu'effectivement, le thème, c'est la réconciliation, un peu, c'est
ça. Tout à fait, voilà.
Et
relier les mondes.
La volonté de Jean-Yves Lorenzi a été de ne pas mettre de point d'interrogation, pour ne pas créer cette espèce de façon de dire des choses sans les assumer. Et alors là, ça tombe dans un moment politique en France qui nous met dans une situation particulière.
Plus que jamais, il faut relier les mondes, y compris en France. Et je crois, quelque part, quand même, les négociations dont vous parlez entre les différentes compositions politiques sont aussi un élément, une façon de relier différents mondes économiques et sociaux.
Je ne sais pas si ça va relier les gens ou justement créer une grande... C'est le cœur de la question que Gaël est en train de poser. Là. Est-ce que vous trouvez génial qu'il y ait des coalitions parce que c'est la preuve d'un pays mûr qui est capable de se resserrer, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a volé votre vote, quoi ? C'est un peu ça le truc. La TVA. Alors, le Sénat sort un rapport, il dit oui, on peut baisser la TVA de 20 à 5,5% sur une consommation d'électricité de base pour les ménages. C'est-à-dire qu'on la mettrait à 5,5% pour les consommations qui ne dépassent pas 4,5 MWh par an si on n'est pas chauffé à l'électrique, et les consommations qui ne dépassent pas 6 MWh par an si on est chauffé à l'électrique. Et là où je suis frappé, c'est que le Sénat nous dit, si on fait ça, alors c'est ciblé, donc, mais si on fait ça, on baisse la facture de 40%. Hier, j'étais avec Jordan Bardella sur BFM TV. Et évidemment, sur les questions économiques, c'est la principale mesure de pouvoir d'achat. Je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais on sait très bien qu'on n'a aucune certitude qu'une baisse de TVA ne va pas atterrir dans la poche du producteur. Et tout dépendra de la concurrence au niveau local pour savoir s'il y a répercussion ou pas. Bon, alors on a discuté, il considère que lui, sur les carburants, un litre de gazole chez l'un ou chez l'autre, ça fait pas la différence, et que c'est bien le prix qui fera la différence, contrairement au restaurateur, ou une carte de restaurant par rapport à une autre carte de restaurant. C'est pas la même chose. Jean-Pierre, une baisse de TVA, est-ce qu'on peut comme ça dire, si on baisse la TVA sur une partie de la consommation de base, on a 40% de baisse de facture, à votre avis?
J'ai pas fait l'étude pour avoir des idées plus précises sur dans le partage entre la baisse des prix et le comportement de marge. Je dirais pas à ce niveau-là, je dirais un peu moins, mais j'ai pas fait d'étude là-dessus. Je sais pas si...
Alors, je sais pas, Philippe, c'est quand même frappant, parce que, alors certes, le Sénat travaille depuis longtemps sur ce sujet, probablement que la date était prévue, ça sort quand même à 3 jours à peine du second tour des législatives. C'est un acte économique ou c'est un acte politique ?
Pour moi, c'est d'abord un acte politique. Là, on est le Sénat, où les Républicains indépendants sont majoritaires, ou tout au moins ce qui tourne autour des Républicains indépendants sont majoritaires. Et donc là, en fait, s'annoncent les conditions de la future négociation. Et c'est vrai que les Républicains, personne ne rentrera dans la négociation d'une grande coalition sans se demander comment je sers mes électeurs. Et d'ailleurs, cette négociation,
en fait, c'est du grain à moudre.
C'est du grain à moudre. Voilà. Et chacun se positionne. Comme la gauche, vous l'avez cité, a dit, attention, l'ISF et les retraites. Ouais. Donc on voit se positionner maintenant les différentes factions. Ce que je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut voir que quand même le secteur énergétique est un secteur très particulier. C'est un secteur marginalement concurrentiel, c'est pas un secteur fondamentalement concurrentiel.
Ça, c'est...
Deuxièmement, c'est un secteur où l'État a un pouvoir très importante, notamment
aussi
sur EDF.
On a bien vu sur le bouclier tarifaire, quand on a mis les droits d'assises à zéro, on a eu l'effet prix. C'était Bercy qui vous tordait le bras. Donc.
Voilà. Alors, est-ce que Bercy tordra EDF, ou non le bras du patron d'EDF, et est-ce qu'il mettra son avenir en question ? Vous voyez très bien que ça va changer les choses. Parce que si EDF, comme un seul homme, baisse les prix, les autres seront obligés de baisser les prix, puisque EDF est l'acteur dominant.
Oui, c'est tout.
Troisièmement, vous avez la question des coûts de production, pour savoir voir si EDF perdra des, baissera les prix. Et là, les coûts de production, ben, si on se tourne vers EDF, c'est quand même pas joyeux. N'est-ce pas ? Les coûts de production sont élevés, les profits sont plutôt faibles. Et donc, il y a des vraies tensions, y compris avec les syndicats. Donc, la question est tout à fait, vous avez tout à fait raison de la poser. Maintenant, un gouvernement qui voudrait vraiment tordre le bras d'EDF pourra le faire.
Oui, c'est vrai. EDF, c'est un cas particulier. C'est une entreprise 100% détenue par l'État.
Et donc, une fois que vous avez tordu le bras, voilà. Une fois que vous avez tordu le bras à EDF, le reste du marché sera obligé de suivre.
Oui, en fait, c'est du prix administré, quoi, en fait.
C'est du prix administré.
J'entends effectivement le côté monnaie d'échange. Première adjudication à 10h, Jean-Pierre Petit. Oh, on s'était dit, on a vu les réactions de marché après le premier tour, c'était plutôt un ouf de soulagement. À 10h, ça va super bien se passer, il y aura la demande habituelle.
Mais même avant
adjudication, c'est placement donc de la dette de la France par l'agence France Trésor.
Mais même avant le premier tour, alors qu'il y avait beaucoup plus d'incertitudes que maintenant par définition, sur la composition de la future Assemblée nationale, on n'avait pas vu remonter nettement les CDS.
Les contrats d'assurance, les produits de marché qui servent de contrats d'assurance.
Et sur les adjudications, il y a le fameux ratio bid-ask en fonction de l'offre et de la demande. Vous voyez, est-ce qu'il y avait des tensions ? Il y avait quasiment rien. Donc sur le plan de la liquidité et d'une manière générale de la confiance générale dans la dette publique française, il n'y avait pas trop de sujets. Il y a le spread qui augmentait, alors je le rappelle, déjà augmenté avant, on n'était plus à 25-30 bips, qui était à peu près la moyenne dans la deuxième moitié des années 2010, et on était déjà à 50, qu'on passe à 80, on a tangenté les 85 à un moment donné, puis là, hier on était à 70, il y a une forme de normalisation, mais là, c'est probablement dans les recommandations que j'ai faites juste le lendemain de la dissolution, j'ai dit que le spread augmenterait, j'ai décliné toute une série de stratégies d'investissement. Mais là, je reste prudent quand même sur le spread au AT Bund, parce que ça, de mon expérience, notamment eu égard à la crise de la dette souveraine qu'on a connue au début des années 2010, les effets de seuil, on les connaît pas. Les effets de seuil, c'est-à-dire là où...
Le moment où ça devient chaud.
La défiance. Ex ante, tu les connais pas.
Vous me disiez la fois dernière, 200 points de base, ça commençait à être chaud. Ludovic Subran me disait 150 points de base, on commence à serrer un peu les fesses.
Ah bah oui, par définition.
Non, mais voilà, surtout, effet de seuil, mais je...
Le mécanisme s'auto-réalise parce qu'il y a mimétisme. Si des grandes compagnies d'assurance européennes commencent à shorter la dette française, ça, il ne faut pas se faire d'illusions, il va y avoir un mimétisme de la part des autres intervenants, des autres investisseurs institutionnels. Donc, sachant que, je le rappelle, sur la dette française, il y a trois choses à avoir en tête. Premièrement, 55% de la dette publique est détenue par les non-résidents. C'est un des ratios les plus élevés de tout le CDE. Donc ça, c'est quand même extrêmement important.
Signe de fragilité, oui.
Voilà, la fragilité de base, si je puis dire. Deux, la France est perçue comme un pays qui ne sait pas gérer son solde primaire, puisqu'en 40 ans, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 soldes primaires positifs. Et ça, c'est fondamental. Donc voilà. Trois, la BCE n'interviendra pas maintenant. Ça, c'est sûr que via l'OMT ou le TPI, la seule chose qu'elle puisse faire...
Ce sont les outils de la BCE pour intervenir au
prix des États. Quand il y a un creusement non justifié des spreads, du point de vue de l'efficacité de sa politique monétaire, de la transmission de sa politique monétaire. Et la seule chose qu'elle puisse faire, c'est, dans le cadre de son activité de réinvestissement des coupons qu'elle reçoit sur les titres de dette qu'elle a achetés il y a longtemps, elle peut favoriser comme elle veut tel ou tel segment, c'est-à-dire éventuellement la dette française. C'est la seule chose qu'elle puisse faire en l'état actuel des choses. Voilà.
Bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à 10h du matin.
Non, il n'y a pas d'inquiétude pour aujourd'hui.
Nicolas, oui, pas d'inquiétude. Je souscris à ce qui vient d'être dit. J'ajouterais quand même.
Il ne s'est rien passé de dramatique depuis la dissolution.
Non. Il ne s'est rien passé de dramatique parce qu'au fond, nous avons deux programmes économiques dont l'un est considéré comme aujourd'hui ne s'appliquant probablement pas, celui de NFP, en tous les cas pas dans la façon dont il a été formé. Et l'autre, c'est quelque sorte un programme économique introuvable, c'est-à-dire de trouver les contours du programme économique du Rassemblement National. Aujourd'hui, je ne sais plus très bien ce qu'il y a dedans. On a retiré des choses.
Il reste des trucs.
Il reste des trucs.
J'en ai parlé
ceci
hier
étant,
avec
ne nous l'aurons pas. Nous étions à 30 points de base. Nous sommes près de 80 points de base, 70 points de base, 50 points de base en plus. 50 points de base, c'est quoi ? C'est 15 milliards en régime de croisière.
Oui, quand on
15 milliards, c'est la recette attendue de l'ISF, de leur établissement
du
ISF, du super ISF.
C'est vrai que c'est, non, c'est pas mal Philippe d'exprimer ça en milliards pour son point de base.
Oui, oui. Qui dit papa, maman, l'environnement, les hôpitaux et tout ce que vous voulez. Ou c'est les recettes qui sont attendues par le Rassemblement National de la réforme des prestations sociales en matière migratoire. Et donc, c'est tout ça qui est véritablement nettoyé de la table et renvoyé à la poubelle.
Vous vous rendez compte de ces éléments qui sont si loin de la vie des gens et en fait, effectivement, vous riez d'un trait de plume.
En un clin d'œil. Attention, et c'est vrai qu'une bêtise, au moment où se formerait par exemple une coalition, si une coalition se forme, une bêtise dans le programme, et elle peut coûter encore 50 points de base. N'oublions pas, l'Italie est aux environs de 175 points de base à l'heure actuelle, et là, ça commence à coûter très, très, très cher.
Oui, 50 points de base.
Ce qu'il faut voir, c'est les effets aussi de diffusion sur l'Europe. Hein. Ça, c'est important. On a eu une augmentation des spreads périphériques.
Qu'est-ce que vous appelez l'augmentation des spreads périphériques?
De l'Italie, par rapport au Bund.
Par rapport au Bund, d'accord.
Voilà, de l'Italie, Espagne, etc.
Oui, oui, absolument.
Et puis, une petite baisse de l'euro, bon, ça n'a pas grand-chose.
On est quoi, 1,07 $?
Oui, non, c'est pas grand-chose. Et la troisième chose, c'est une sous-performance des marchés actions européens par rapport aux marchés américains.
Très clairement.
Et en particulier, des small caps.
Oui.
Elles ont besoin de financement, etc. Puisque là, on parle des faillites, là, ce qui était important. Pourtant, parce que les faillites, c'est les résultats, pas que de ça, mais c'est quand même la résultante du resserrement des conditions de crédit antérieures. Là, on avait une amélioration. Si jamais les choses ne vont pas dans le bon sens, on risque de revenir à un resserrement des conditions de crédit et des conditions
financières. Pour qu'on comprenne bien, c'est hyper important. C'est-à-dire que si on avait une tension sur le taux long à 10 ans de la France, il y a un moment, il y aurait une répercussion, vous me dites, sur les taux longs du crédit.
Oui, voilà, de toute façon, il y aurait une répercussion sur le comportement des banques, parce que les banques, elles aussi, si elles voient l'environnement se dégrader, elles vont resserrer sans que la BCE n'intervienne.
Bon. Gaël, j'aimerais vous poser, avant d'évoquer le sondage Odoxa, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, parce que vous êtes plus près de la politique que moi, est-ce que vous avez déjà assisté à des cuisines pareilles entre différentes formations politiques? Je m'y perds, hein. Et hier, en fait, j'écoutais Benjamin Duhamel qui était hyper au fait de tous les petits trucs, parce que c'est vraiment son domaine. Je me suis dit, mais c'est délirant. C'est délirant quand même.
On est dans une situation politique extraordinaire qui a des conséquences. Là, vous parlez des spreads et Jean-Pierre. Finalement, nous dit que c'est pas si dingue que ça, l'évolution. Mais quand même, je pense que vous avez raison, Philippe, de rappeler les conséquences sur des programmes politiques majeurs de la part de nos hommes politiques. On m'entend pas bien. Alors, est-ce que j'ai déjà assisté à des cuisines comme ça? Ça me rappelle un petit peu des élections comme celle de 97, mais on n'était pas à ce point-là. Mais on n'a jamais, Nicolas, connu une situation où vous aviez deux scénarios possibles. Au soir de l'annonce de la dissolution, au regard de la réalité politique française, c'était l'extrême droite, le Rassemblement National à Matignon. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, jamais. Donc c'était ça le scénario numéro un. Et il y avait un deuxième scénario qui, depuis les désistements républicains, se dessine davantage, qui est l'impossibilité de constituer le moindre gouvernement. Donc, quand vous parlez de cuisine, en fait, c'est pas très compliqué. Si vous vous retrouvez avec 230 ou 250 députés RN à l'Assemblée au soir du second tour, avec une majorité, avec un nouveau Front populaire qui est sous les 200, et avec une majorité présidentielle à 150. Vous êtes dans des situations où aucune majorité normale n'est trouvable. Le RN ne pourra pas gouverner en récupérant une partie des LR et en achetant une dizaine de députés félons pour un plat de lentilles issu de divers droits, toutes sans étiquette, parce qu'à 278, il passe le RN en réalité. Hein. Mmh. Mais s'il est sous les 250 ou les 260, ça ne marchera pas, donc il ne pourra pas gouverner. Si vous vous reportez du côté de la majorité présidentielle, eux, ils sont hors jeu parce qu'ils sont trop loin. Ils ne pourront pas constituer un gouvernement autour d'eux. Quant au nouveau Front populaire, est-ce qu'on imagine demain un gouvernement qui irait des Insoumis et du Parti communiste jusqu'à LR? Certains le font. C'est peut-être possible, c'est ce qui s'est passé en fait en France après-guerre. Le général de Gaulle a mis ça en place, il a gouverné avec les communistes. Mais ce serait un scénario tellement dingue qu'en fait le scénario le plus probable aujourd'hui, et qui à mon avis va très bien aller au marché en réalité, et très bien aux Français,
c'est la France ingouvernable.
On va en dire un mot avec notre sondage.
Oui, c'est ce que je pense.
Mais la France parfaitement ingouvernable du point de vue d'une majorité cohérente, je pense que les marchés vont en être ravis, et je pense que les Français vont en être extrêmement soulagés.
C'est sûr.
Ah, j'arrive pas à avoir un point de vue sur est-ce que les Français en seront sous la justice.
Ah, bah, les Français, ça, je vais vous le dire, parce que j'ai le sondage, mais les marchés, je pense.
Mais c'est la 4e République, 22 gouvernements en 12 ans. Les gouvernements étaient issus uniquement de la 3e force, puisqu'à gauche, il y avait le Parti communiste qui était à 25-26.
Ah ouais, c'était
à droite, il y avait le Parti gaulliste qui refusait, pour l'essentiel, de participer. Il y avait MRP, SFIO, UDSR de Mitterrand. Et c'est eux qui faisaient le gouvernement. Et ça durait pas, même les bons, Mendès France, par exemple, il a duré 7 mois. Antoine Pinet, il plaisait aux épargnants.
Et on peut parler de la Belgique ou on peut parler des Pays-Bas récemment qui, eux, n'ont pas eu de gouvernement.
Ils faisaient des projets de loi de circonstance qui passaient, boum. La loi de finances était toujours quand même se mettait en place. Et puis, le reste. Et puis, ça allait parce que, enfin, on était en phase de reconstruction, puis l'émergence des 30 Glorieuses. On a quand même réussi à solder les accords d'Indochine avec les accords de Genève. On a fait des trucs quand même, sous la
guerre. On a fait la guerre d'Algérie, on a fait la guerre
La guerre d'Algérie, ça c'est clair. Sinon, De Gaulle serait pas revenu.
Est-ce que je peux rajouter quand même, par rapport à la situation de la 4e République, où nous étions à la proportionnelle. N'oublions pas, c'était à la proportionnelle, et donc ce qui arrivait au Parlement reflétait le pays. Là, ce qui se passe, c'est que les négociations ont lieu avant l'élection. C'est-à-dire, avant l'élection, on dit on fusionne et on fait une sorte de pacte de quasi-gouvernement.
Et surtout, elles vont avoir lieu après. C'est ce que dénonce Nicolas.
Mais ça, c'est déjà... Le nouveau Front Populaire, c'est quand même, il y a des composantes, je ne sais pas, j'observe des tiraillements gigantesques. Et deuxièmement, ensuite, nous allons avoir une grande coalition. Pour le moment, cette coalition, elle n'est pas constituable si cette coalition n'arrive pas à avoir une vingtaine de députés LFI. Dans les configurations actuelles, il faut que ces personnes aient 20 députés LFI et qui leur expliquent, vous savez, on va faire aussi la politique des Républicains.
Avec LR. Ouais.
Voilà. Alors là, pour le coup, bien évidemment, pour les marchés, c'est très bien parce que ça désamorce toutes les bombes économiques. Et donc, on est sur quelque chose d'un peu moyen. Mais en même temps, on voit bien la forte instabilité de ce type de gouvernement, si tant est qu'il puisse se constituer, ce qui n'est pas du tout sûr.
Ce qui n'est pas du tout le cas d'école le plus probable actuellement. Mais si on allait dans ce scénario de politique fiction, assez improbable, je pense. Mais si on allait dessus, là, pour le coup, on retomberait sur la question que posait Nicolas et que je pose dans mon sondage. Quand vous me demandiez est-ce que j'ai déjà assisté à des cuisines comme ça, oui, si vous me parlez du Nouveau Front Populaire, on en a fait des caisses, mais le Nouveau Front Populaire, c'est ni plus ni moins que la majorité plurielle de 1997, avec Lionel Jospin, les écologistes, les communistes. Donc, certes, les insoumis ont stratégisé la bordélisation de la vie politique, et ils ont été d'une violence extrême, mais en termes d'origine politique, que sont les insoumis ? La France insoumise, c'est juste une scission du Parti socialiste qui trouvait que le Parti socialiste était trop social-démocrate. C'est un parti politique qui, normalement, sur le plan économique, se situe bien moins à gauche que le Parti communiste. Or, on ne s'inquiète pas beaucoup. Vous ne voyez pas des gens vous dire « Oh là là, le Parti... » Parce que le Parti communiste est plus calme dans ses postures. Donc, le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas choquant en termes d'alliance. En tout cas, la gauche est habituée à s'être alliée en 81... En 97, avec des formations politiques qui disent des choses complètement contradictoires sur l'Europe, sur l'économie de marché, mais on est habitué à ça à gauche. En revanche, ce qui est plus choquant...
On s'habitue à dire n'importe quoi.
Ce qui est plus choquant pour les gens, ce sera le scénario que vous évoquez il y a un instant. Une fois l'élection faite, une fois la Chambre impossible à gouverner sortie des urnes, dire à des gens qui ont été communistes ou insoumis, on va faire un gouvernement avec des LR, non seulement des macronistes qui ont voté la réforme des retraites, qui vous a mis dans la rue et rendu furieux, mais en plus avec des LR. Là, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et je rejoins ce que disait Philippe il y a un instant, la plupart des pays normaux, pardon de le dire comme ça, la plupart des pays normaux de nos voisins sont des pays qui fonctionnent avec, finalement, des conciliations, des arbitrages, des concessions en Allemagne, en Espagne, partout. Le seul pays au monde, avec les États-Unis, mais qui est un cas un peu à part, qui ne fonctionne pas comme ça, c'est nous. Et essayer de faire des coalitions de ce type dans la 5e République, la 4e dans la 5e, c'est quasi impossible.
On marque une pause. Jean-Pierre, dans un instant.
La 5e République, t'es pas faite pour ça.
Vous parlez des pays normaux. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où on vit ça en France, on a une Grande-Bretagne qui est en train de se normaliser. C'est plus la Grande-Bretagne du Brexit dans l'incarnation de son leader travailliste, qui ne cesse de répéter qu'il faut donner de l'espoir ordinaire, de l'espoir crédible.
In the end, ils ont toujours tort.
Les Anglais ont toujours compte.
Non, mais Jeremy Corbyn.
C'est pas du Jeremy Corbyn, justement.
Mais Tsipras. Bah oui, mais bien sûr. Voilà. Mais il a eu tort.
Ah, ben voilà, oui.
Tsipras. Regardez Tsipras. Oui, 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 oui. Il s'est présenté contre l'Europe.
Mais on coupe, on marque une pause.
Il a dégagé au bout de six mois.